Bonjour. Je suis tellement heureux de pouvoir commencer cette année ensemble avec vous. J'ai hâte de voir ce que Dieu va faire dans cette année. On a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets. On ne sait pas nécessairement ce qui va arriver, même demain. Jésus l'a dit, on ne sait pas ce qui arrivera demain. Mais nous pouvons avoir quand même des projets, des envies et de vouloir faire des choses pour Dieu. Je suis content aussi qu'on a pu commencer aujourd'hui avec ce rappel puissant de la bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle à annoncer. Jésus n'est pas resté mort. Jésus est vivant. Il est exalté à la droite de Dieu le Père. Et c'est lui que nous adorons. C'est en son nom, en sa présence, que nous nous réunissons aujourd'hui. On va écouter maintenant sa parole, la parole de Dieu, inspirée. Et nous allons prendre du temps pour écouter particulièrement un psaume. Mais aujourd'hui, en fait, on retourne à l'école, on retourne à l'université. C'est un peu particulier, mais c'est le début du second quadrimestre. Imaginez l'auditorium rempli d'étudiants parce que ce cours-là, ils ne veulent pas le louper. Ils veulent être présents, ils veulent l'entendre parce que ce cours-là les intéresse particulièrement. C'est un cours d'introduction, c'est un cours de première année, mais la prof a une excellente réputation. Elle est experte dans ce domaine. Et les étudiants qui sont déjà passés par ce cours l'an dernier, l'ont vivement recommandé aux premières années. Et c'est pour ça que l'auditorium est rempli. Tout le monde veut entendre ce cours-là. C'est donné par un prof qui s'appelle Madame Sophia Biblia. Et à travers elle, nous allons entendre le cours qui concerne la sagesse. Comment être sage dans la vie d'aujourd'hui? Comment être sage quand nous avons tous des défis? Des difficultés, des choses que nous ne comprenons pas, des choses auxquelles on a du mal à faire face dans la vie de tous les jours. En ce début d'année 2025, nous allons apprendre la sagesse biblique. Mais sachons que la sagesse biblique, c'est plus que la connaissance, simplement. Ce n'est pas seulement des informations vraies sur Dieu. C'est plus quelque chose qui va nous transformer. La sagesse biblique est aussi plus que l'intelligence. Vous savez qu'il y a des gens qui sont très intelligents, qui sont des académiciens, des écrivains, des chercheurs. Mais je ne parle pas d'intelligence naturelle, où aujourd'hui on parle de plus en plus d'intelligence artificielle. Mais la sagesse est autre chose. C'est en fait le savoir-faire, le savoir-vivre. Nous avons dans la Bible le vrai dépôt de la sagesse de Dieu qu'il veut nous transmettre. Et c'est bien plus précieux et bien plus important que tout ce qu'on peut trouver sur Internet. Vous savez que ces jours-ci, l'Internet raffole de ça, de donner des astuces aux gens. Vous pouvez trouver ça parfois en bas des articles. Une astuce pour réduire votre consommation de chauffage ou votre facture d'électricité. Ou voici le gadget qu'il faudrait acheter pour changer votre vie. Et on est attiré par cela parce que ça semble tellement facile. Ou le conseil simple à faire chaque jour pour votre santé. Vous voyez ça parfois sur Internet? Ou l'aliment qu'il faut pour perdre du poids. Et nous, comme des pigeons, on tombe dedans. On est attiré par ça, on regarde et on lit. Et ça nous semble tellement facile. Un truc et c'est bon, ma vie sera réglée. Évidemment, la vie n'est pas si simple. Et la Bible ne nous donne pas des recettes simplistes ou des recettes trompeuses. Elle nous donne la sagesse biblique, qui est en fait la connaissance de Dieu et de l'humanité qui nous pousse à faire de bons choix, qui nous pousse à craindre Dieu, à respecter Dieu qui est au-dessus de nous, et aussi à vivre de manière juste en évitant le péché, en choisissant le bien, la voie que Dieu a préparée pour nous. La vie chrétienne, donc, est la vie sage selon la Bible. C'est pour ça que semaine après semaine, dans ces premiers 2 mois de notre année, nous allons écouter attentivement des textes de la Bible qui parlent de sagesse. Quel que soit notre âge, quelle que soit notre expérience, que nous ayons déjà fait des choix majeurs de notre vie ou que ces choix sont encore devant nous, des décisions à prendre, nous aurons besoin d'apprendre comment vivre selon Dieu. Il y a toute une partie de la Bible qui est dévouée à la sagesse. C'est les psaumes, les proverbes, le livre de Job et l'Ecclésiaste. Et nous allons commencer aujourd'hui avec le psaume 1. On ne va pas lire tous les psaumes dans la semaine à venir, On va commencer par le psaume 1. Je vous invite à ouvrir la Bible, on va aussi l'afficher, mais c'est toujours utile d'avoir le texte de la Bible sous les yeux, que ce soit sur votre smartphone ou dans la copie de la Bible que vous avez. Je vais le lire. Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Il ressemble à un arbre planté près d'un cours d'eau. Il donne son fruit en sa saison et son feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Les méchants, au contraire, ressemblent à la paille que le vent disperse. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Voici l'homme heureux. On va apprendre à être sage, mais on va apprendre le bonheur. Heureux l'homme qui fait ceci, ne fait pas cela. Alors ici, le psaume ne parle pas de sagesse de manière explicite, il parle d'être heureux. Mais dans la Bible, être heureux et être sage, ça va ensemble. Celui qui est heureux est celui qui est sage, selon Dieu. On le sait parce que Proverbe 3, 13 lit les thèmes ensemble en disant « Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse ». En regardant ce psaume, qui est le début de tout le livre des psaumes, et qui est placé là de manière délibérée, parce que ce psaume-là nous ouvre la perspective sur la vie que Dieu veut que nous ayons, on va commencer à comprendre la sagesse et je vais procéder avec trois questions. On va se laisser questionner par la parole. Première question, qui t'accompagne? Qui t'accompagne dans ta vie de tous les jours? Ce poème, ce chant qui était chanté aussi par les Hébreux, décrit la vie heureuse et sage avec au tout début, belle musique, avec tout début, des personnes à éviter. Des personnes à éviter. Il ne dit pas heureux l'homme qui fait ceci ou fait cela, mais d'abord, il qui évite certaines personnes. Pourquoi? Parce que leur conseil est méchant, il est contre Dieu. Leur voie est celle que prennent les pécheurs. C'est une façon de décrire ceux qui sont en opposition à Dieu, qui font l'opposé de ce que Dieu veut. Et c'est vrai que les péchés nous attirent. Je dis parfois que le péché n'aurait pas de succès s'il n'était pas attirant quelque part. Le péché nous attire parce que nous avons tous dans notre arrière-plan, dans notre nature, une nature pécheresse, une nature qui est portée vers le péché. Alors je dois vous dire que ça ne veut pas dire que nous sommes des tueurs à gages ou des bandits, mais que nous sommes par nature orgueilleux ou égoïstes ou vaniteux ou moraliste, et ce sont toutes des choses que Dieu déteste. La voie des pécheurs. Non, vraiment, il ne faudrait pas se tenir là. Il faut choisir son camp, dit ce psaume. Vous choisissez votre camp. Vous voulez être avec les pécheurs, vous tenir avec eux? Ou est-ce que vous êtes prêt à montrer votre différence? Alors c'est vrai que dans le cours de la semaine et du mois, nous sommes tous mélangés les uns avec les autres. Les chrétiens ne sont pas toujours ensemble, séparés des autres. Nous mélangeons forcément avec nos voisins, nos collègues, nos amis qui sont non-chrétiens. Mais nous devons quand même être différents. Il y a un mythe qui est propagé et qu'on croit parfois quand on est jeune. Je croyais comme ça quand j'étais jeune, que la façon de gagner le monde, c'est d'être aussi pareil aux autres que possible. De leur montrer qu'on est vraiment comme eux. Et la Bible ici nous dit non, en fait, ce n'est pas comme ça. Et les non-chrétiens ne seront pas attirés à la foi si nous sommes exactement comme eux, si nous regardons les mêmes choses, nous avons le même langage, nous avons le même comportement, nous avons les mêmes attitudes, mais nous allons montrer que nous sommes différents. Au lieu de faire semblant qu'il n'y a pas de différence entre nous et les non-chrétiens, nous allons montrer que nous sommes en train de suivre une autre voie. En priant, en lisant la Bible, en allant à l'église, ben, eux ne le font pas, mais aussi, surtout en aimant Dieu, quelque chose qu'eux ne font pas. Mais la vie que tu mènes n'est pas une vie qui est essentiellement la même que les non-croyants, avec un petit peu de plus, avec un petit peu plus de Bible, ou avec un peu d'activité religieuse. C'est une toute autre voie, c'est une toute autre vie, c'est un tout autre comportement, c'est une autre attitude. Et cette autre voie que sur laquelle tu marches affecte aussi tes fréquentations, les personnes que tu choisis pour ton entourage. Proverbe 13, verset 20 dit ceci: celui qui marche en compagnie des sages devient sage, et celui qui fréquente des hommes stupides se retrouvera en mauvaise posture. C'est un principe de la vie. Nous ne pouvons pas éviter cela. Nous sommes entourés par des gens qui nous influencent. Et nous avons tous des choix, mais particulièrement parce que nous sommes influencés par nos amis, nous devons choisir nos amis avec soin. Je sais par expérience qu'avoir un ami sage, quelqu'un qui me rappelle, mais Dieu est là, il va t'aider. Ou lis ta Bible, ou j'ai lu quelque chose, je peux t'encourager avec ça. Ou même j'ai découvert un truc dans ma lecture, ou par le passé avec Dieu, ça nous fait un bien fou d'avoir des amis sages comme ça. Ça nous hisse vers le haut. Mais nos amis peuvent aussi être des paresseux, des hommes qui vivent pour profiter des autres ou qui nous incitent au mal en disant: ouais, c'est pas grave, tout le monde fait ça. Et donc on risque d'être entraîné aussi par eux. Si on les a comme nos compagnons de route, c'est ça la question, qui sont nos compagnons de route? Quand on parle avec eux, quand on passe du temps avec eux, ça peut vraiment nous détourner de Dieu, ce Dieu qui nous aime et qui pourrait nous rendre vraiment heureux. Mais ce n'est pas seulement nos amis. C'est aussi les influences, par exemple les podcasts que nous écoutons, qui vont influencer nos attitudes. Ou je voudrais vous partager l'idée que parfois les personnes que tu fréquentes le plus sont les personnes dans les séries. Si tu regardes 4 ou 5 épisodes d'une série que tu aimes sur une semaine, c'est 5 heures que tu passes en compagnie de ces gens-là, de ces personnages-là. C'est peut-être plus que tu ne vois tes propres amis. Et donc, il ne faut pas être étonné que ces gens-là vont influencer ton mode de pensée, tes attitudes, ta vision du monde. Leur vision du monde peut devenir la tienne si tu ne fais pas attention. Et leur moralité peut déteindre sur toi. Donc, il faut choisir tes amis avec soin. Nous devons choisir attentivement les séries que nous regardons et les sites que nous suivons parce qu'ils vont avoir une influence sur nous. Revenons à notre homme. Donc, il est heureux, il évite les méchants, leurs conseils. Il ne se trouve pas sur la voie des pécheurs, mais aussi il ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ici, je ne cherche pas à culpabiliser quelqu'un qui a un jour ri à une blague qui était un peu limite, un peu douteuse. Ça nous est tous arrivé. Mais le moqueur, c'est celui qui se moque de tout, qui ne prend rien au sérieux. Ni Dieu, ni le jugement, ni l'éternité, ni Jésus. Il se moque de tout. Tout est un sujet de rigolade pour lui. Alors c'est vrai que dans la vie, on rencontre des moqueurs, n'est-ce pas? Même en Israël, à l'époque, il y avait des moqueurs. Mais s'asseoir en sa compagnie, c'est décider que oui, on est vraiment parmi eux. Et c'est prendre plaisir en son cynisme. Vous savez, quand un naïf rencontre les dures réalités de la vie, parfois il cherche à se réfugier dans une attitude pessimiste et cynique, en disant: ah, j'ai cru que tout allait bien, mais finalement je me suis rendu compte que la vie est plus difficile. Et il va juste devenir cynique par rapport à tout. Le pessimisme du moqueur, c'est très apprécié, c'est très cool, parce que le pessimiste n'a jamais tort, n'est-ce pas? Mais être le gars qui s'en fiche de tout, ce n'est pas pour nous. Nous, en tant que croyants, nous sommes censés être portés par la foi, par l'espoir en Dieu, qu'il va faire des choses, qu'il va faire des bonnes choses. Et donc, on peut rire, bien sûr, rire de nous-mêmes, mais on ne se moque pas de certaines choses. On ne se moque pas de Dieu, on ne se moque pas de la Bible, on ne se moque pas de Jésus, on ne se moque pas de l'enfer. Il y a des choses qu'on doit prendre au sérieux parce qu'on est chrétien. Et donc on évite de s'asseoir et de se laisser influencer par les moqueurs. On arrive vite à notre deuxième question. Quel est ton attachement à la parole. Qui sont tes compagnons de route? Première question. Mais ensuite, quel est ton attachement à la parole? Parce que l'homme heureux, verset 2, trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Ce n'est pas qu'il ne fait rien d'autre de sa journée que lire la Bible, mais qu'il a les vérités bibliques en tête. Peut-être qu'il a appris des textes de la Bible par cœur. Récemment, j'ai essayé de m'efforcer d'apprendre un psaume par cœur. Ce n'était pas évident. Je ne suis pas arrivé parfaitement à le faire. Mais ça faisait que ça tournait dans ma tête, dans ma mémoire, dans mes souvenirs. Ça nous aide si on pense dès le matin à la Bible. Et si quand on se couche le soir, on lit la Bible avant de se coucher, ça va rester dans nos pensées. Mais ce n'est pas seulement les connaître, les lire, mais c'est qu'on prend plaisir dans ces vérités. Il se réjouit de la parole. C'est un délice pour lui. La Bible, plus tard, va être comparée à du miel. Tellement c'est doux, tellement c'est bon pour le croyant. Un autre psaume dit ceci, psaume 119, qui est dévoué à la parole, dit ceci: Combien j'aime ta loi, je la médite toute la journée. Ou encore, je déteste les hommes doubles, mais j'aime ta loi. Et quand il parle de la loi, il parle de l'instruction de Dieu, la loi de Moïse, qui était leur Bible à l'époque. C'était la Bible pour eux. Alors je sais que ce n'est pas facile de lire la Bible tous les jours et que certaines parties de la Bible sont peut-être un peu plus comme un plat de légumes qu'un pot de miel ou de chocolat. Mais la Bible, on est censé l'aimer. C'est d'ailleurs un des premiers signes qu'on est chrétien et qui se trouve chez tous les chrétiens. C'est que nous aimons la Bible. Parce que lorsque nous lisons la Bible, elle nous fait du bien. Elle nous change les idées. Elle nous donne une perspective différente, la perspective de Dieu sur notre vie. Et elle élève notre conscience pour que nous ayons le péché en horreur et que nous ayons soif de vivre dans la pureté et la sainteté de Dieu. On veut devenir amis du bien. Et c'est la Bible, la parole de Dieu, qui va nous aider dans ce sens. Vous savez, vous serez soit conduit par l'opinion humaine, l'opinion populaire, tu suivras le groupe, ou alors vous serez conduit par la parole de Dieu. Mais regarde les résultats. Parce que celui qui se laisse nourrir par les vérités bibliques devient comme un arbre. C'est une image d'une stabilité, quelqu'un qui a une bonne vie. Comment est-ce qu'il est décrit? Il est stable. Il est planté, enraciné. Il est nourri. L'eau qui lui vient, l'eau de la rivière, nourrit. Donc la parole nous nourrit, spirituellement parlant. Il est vivant. Son feuillage est vert et il est fructueux. Il produit du fruit. Et tout ce qu'il fait lui réussit. On aimerait croire que ça veut dire qu'il va réussir tout et donc on va réussir toutes nos études. On va réussir toutes nos entreprises, on va devenir riche, mais il y a des rebondissements dans la vie, il y a parfois des contretemps, des choses inattendues qui nous tombent dessus, n'est-ce pas? Nous n'arrivons pas à accomplir tout à la hauteur de nos rêves, parce que nous ne maîtrisons pas la vie. Mais la réussite que nous avons, et lorsque nous entreprenons des choses pour Dieu, nous réussissons dans ces choses-là, selon Dieu. Je vais vous donner un exemple. Quand j'étais jeune, j'étais dans un groupe de musique, pas un groupe de louanges, mais un groupe chrétien, un groupe de hard rock qui était parfois un groupe de heavy metal. J'étais bassiste à l'époque. Alors nous n'avons pas réussi sur le plan humain, c'est-à-dire nous ne sommes pas devenus célèbres, personne ne sait, ne connaît ce groupe aujourd'hui, nous n'avons pas fait fortune, nous n'avons pas vendu des albums, etc., etc. Souvent, nos concerts étaient juste assez. On gagnait assez de nos concerts pour payer la salle et pour payer l'essence de la camionnette pour ramener les quatre membres du groupe. Et si on avait de la chance, on se payait des frites après notre concert. C'était tout. On n'a pas fait fortune. Mais on a réussi dans ce que Dieu voulait qu'on fasse. C'est-à-dire, on a réussi à le glorifier. On a réussi à donner une musique avec un message différent. Nous sommes arrivés à encourager au moins les autres membres du groupe dans notre foi, à continuer à nous battre pour Christ et aussi à dire aux gens qu'on peut être bon en musique et être chrétien et aimer Jésus. Vous comprenez, la réussite ne se mesure pas en fait selon le critère humain. les rentrées, la célébrité. Mais ça se mesure selon Dieu et ses critères qui sont portés du fruit, spirituellement parlant. Et Dieu veut que nous portions du fruit pour lui. Il nous montre en Jean 15 que si nous sommes connectés à Jésus, connectés à sa parole, il portera du fruit en nous. Mais l'opposé de cet homme fructueux, cette femme qui porte du fruit, est quelqu'un qui est injuste, méchant. Et regardez verset 4, c'est comme de la paille dispersée par le vent. Pas de stabilité, pas d'ancrage, pas d'attachement solide. Ces personnes sont sans repère. Elles suivent la foule parce que verset 1, il y a une foule de personnes qui a le conseil de méchants, suit le conseil des méchants. Mais à la fin, elles tombent sous le jugement de Dieu. Et c'est là justement que ce psaume nous est utile. Ce psaume nous ouvre les yeux sur la perspective de Dieu sur la vie et qui nous montre que nous devons voir les choses différemment. Aujourd'hui, nous ne voyons pas les justes et les méchants comme ça. Nous voyons des personnes justes qui sont persécutées, balayées, fauchées comme la paille par la persécution. En même temps, nous voyons des gens qui vivent de manière tout à fait injuste, mais qui sont riches et prospères et semblent être comme cet arbre fructueux. Et la Bible nous dit non, non, c'est dans l'autre sens. À la fin, c'est différent. Et donc, notre troisième question que ce psaume nous pose, la troisième question, c'est que t'arrivera-t-il à la fin? Que t'arrivera-t-il à la fin? Pas nécessairement juste maintenant, maintenant, mais à la fin. C'est quoi le résultat de ta vie? Verset 5. Voilà pourquoi les méchants ne résistent pas lors du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. En effet, l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène à la ruine. Dans toute étude, dans toute compréhension, il y a des limites. Nous avons nos limites. Nous avons un bel exemple ici, une belle illustration de cela par nos fenêtres. Ici en haut, nous avons une vue panoramique. Les petites voitures qui roulent sur la route, il y a le chemin du métro, le chemin de fer qui passe devant, les trains qui passent. On voit des entreprises, des gens qui vont travailler chez la STIB, puis quittent à la fin de la journée. Il y a des gens qui rentrent et qui sortent. On voit un peu tout d'ici en haut. Mais il y a aussi des limites. On ne sait pas où vont ces voitures quand elles prennent le ring. On ne sait pas où vont ces gens. Parce qu'il y a un horizon, on ne voit pas au-delà de l'horizon. Voyez-vous? Et c'est pareil dans notre vie. Nous pouvons étudier, observer, apprendre ce qui est accessible. Mais il y a tant de choses qui sont au-delà de notre compréhension, au-delà de notre horizon. Et pour cela, il faut que Dieu nous le révèle. Il faut que Dieu nous apprenne ce qu'il en est. Certaines choses, il ne va pas les dire. Il ne va pas nous les dire. Qui il a choisi? Pourquoi est-ce que ceci ou cela m'est arrivé dans ma vie? Ce n'est pas à nous de le savoir. Quelque part, c'est le secret de Dieu. Mais d'autres choses qui sont au-delà de notre expérience, il va nous les révéler. Il nous les révèle parce qu'en bon Père céleste, il veut que nous soyons des enfants sages, informés, qu'au-delà de ce que nous voyons, il y a des réalités spirituelles et qui sont indéniables. Et pour que nous soyons déjà prévenus et informés, sachons ce qui se passe. Que se passera-t-il à la fin? Eh bien, il y aura une grande division. Une grande division qui sera définitive et juste. Dieu séparera les brebis des boucs, les justes des injustes. Les pécheurs, ceux qui ont vécu selon leur désir, contraire à Dieu, ne pourront pas avoir accès à l'assemblée des justes, ceux qui sont justifiés et pardonnés. Nous devons saisir l'immensité de cette séparation. Elle est irréversible, mais elle est aussi inévitable. Par contre, après avoir dit cela, verset 6, il est dit, Dieu connaît la voie des justes. C'est étrange parce qu'on s'attendrait à ce que, y ait une autre formule quand on regarde cette phrase. Non, on penserait qu'il écrirait, en effet, les justes connaissent la voie de l'Éternel. N'est-ce pas? Il y a la voix des méchants, et puis il y a la voix de l'Éternel, et puis les justes connaissent la voix de l'Éternel. Ou on penserait que, parce que beaucoup de poèmes hébreux ont des parallèles, qu'il y aurait un parallèle plus juste, plus précis. La voix des méchants mène à la ruine, mais la voix des justes mène à la vie. Mais ce n'est pas ce qu'il a choisi de dire. Il a choisi de dire l'Éternel connaît la voix des justes. Et ça, en fait, c'est une très belle image du Seigneur qui se penche sur nos pas, qui s'approche de nous, qui marche avec nous. Quelle intimité il y a dans cette image. Ce n'est pas, voyez-vous, un tapis roulant avec une caisse à la fin. Et Dieu est juste à la caisse. Et on continue sur notre chemin, et puis à la fin, il y a Dieu. Non, c'est un chemin où nous marchons avec notre berger, comme le psaume 23. Merci Matt, la semaine passée, nous a aidé à comprendre ça. Nous sommes en train de marcher accompagnés par notre berger. L'Éternel est mon berger. Donc nous nous levons le matin et Dieu, l'Éternel est avec nous. On prend le déjeuner, on va au boulot, nous mangeons à midi avec les collègues, nous évitons certains sujets, certaines conversations. Et le Seigneur connaît notre chemin, il connaît notre vie, les détails de notre vie. Ce n'est pas comme un gouvernement de surveillance, mais c'est dans la proximité d'un Père qui est là avec nous. Il s'intéresse à nous. Ça, c'est la voix des justes. Mais l'autre voix, la voix des méchants, qui semblait si impressionnante, qui était si populaire, ils donnaient des conseils aux autres, ils étaient une compagnie de moqueurs, mais ils finiront par être exclus. Très brièvement, ces versets nous donnent un aperçu de ce qui va arriver. D'abord, la dispersion. Le vent disperse, n'est-ce pas? Ils vont être dispersés. Ils ne vont pas être ensemble dans la communion, dans la fraternité, l'amitié. Ils vont être dispersés. L'exclusion. Les pécheurs n'ont pas accès à l'assemblée des justes. Et la destruction. Il parle de la ruine. Ils seront punis éternellement. Nous vivons, bien sûr, à l'époque de la Nouvelle Alliance, c'est-à-dire le nouvel accord entre Dieu et nous qui est venu après Jésus-Christ. Et Jésus a été annoncé comme celui, il a été annoncé par Jean-Baptiste en Matthieu 3, avec des termes qui font écho à ce psaume. Voici ce que Jean-Baptiste a dit par rapport à Jésus. « Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. » Quelle vérité marquante, n'est-ce pas? Jésus n'a pas changé la donne, n'a pas changé pour dire qu'il n'y aura pas de jugement. Il a prévenu que le jugement viendra. Et ça montre la pertinence de nous démarquer déjà de ceux qui ne partageront pas notre avenir. Tant que nous sommes dans ce monde, nous sommes mélangés les uns avec les autres, nous côtoyons les uns les autres. Et nous devons leur dire, en fait, il y a un sauveur. Il y a quelqu'un qui peut éviter la ruine. Et c'est celui qui est venu, pas pour les bons et les grands, mais pour les méchants et les perdus. Ce Jésus qui est annoncé dans le Nouveau Testament est aussi déjà annoncé dans l'Ancien Testament. Et ce psaume premier va en fait avec le deuxième psaume, qu'on ne va pas lire maintenant parce qu'il est encore long, mais le deuxième psaume complète le premier psaume. Au psaume 1, verset 1, on voyait « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants ». À la fin du deuxième psaume, il est écrit « Heureux tous ceux qui se confient en lui ». Heureux, le bonheur de trouver en Christ celui qui est nommé par Dieu pour régner sur les nations et régner sur notre vie, notre bonheur de nous trouver en lui, de trouver notre refuge en lui. Notre refuge, pas seulement pour les petits ennuis de notre vie, mais pour la tempête éternelle de la destruction à venir. Nous pouvons trouver aujourd'hui ce refuge en Jésus-Christ. C'est sérieux, c'est important, c'est urgent. Il nous appelle à le faire. Et nous avons entendu en 1 Corinthiens 15 qu'il a la victoire sur la mort et l'enfer. Alors pourquoi pas être du côté du victorieux plutôt que du côté des perdants. Mais je vais terminer avec quelques recommandations pratiques, simples, pour essayer de prendre ce psaume et de le mettre en pratique pendant cette semaine qui vient. Alors les sages, on a vu, prêtent attention à la parole. Voici trois choses que tu pourrais faire, que vous pourriez faire cette semaine, que je pourrais faire pour mettre cela en pratique. D'abord, prenez des dispositions pour lire la Bible. C'est évident, mais vous n'allez pas savoir méditer la Bible si vous ne la lisez pas. Alors ça ne va pas non plus se passer par hasard ou par accident que vous arrivez à beaucoup lire la Bible. Il faut un plan, il faut une décision, une démarche. Et nous avons des plans concrets à proposer sur notre site lifepoint.be tiret ou slash oblique Bible. Vous pouvez trouver des plans de lecture de la Bible. Si tu lis un chapitre du Nouveau Testament chaque jour, tu auras lu tout le Nouveau Testament en un an. Si tu n'as jamais lu tout le Nouveau Testament, tu peux te donner ce défi. On est au début de l'année, pourquoi pas déjà commencer avec le bon plan. Ou alors, 3 chapitres par jour, en 13 mois, tu auras lu toute la Bible, si tu lis 3 chapitres par jour. C'est pas grave si ça nous prend un peu plus de temps, mais au moins qu'on est arrivé à le faire. Ce serait un bon objectif à avoir, une bonne habitude, lire la Bible régulièrement. Deuxième astuce, parlez de ce que vous avez lu, de ce que vous avez entendu. Parce que ça va vous aider à le retenir. J'ai lu quoi aujourd'hui? Entre époux, posez-vous la question, tu as lu la Bible, qu'est-ce que tu as lu? Ah, mais ça me force à réfléchir, est-ce que je m'en souviens? Et entre amis, vous pouvez dire ça aussi, tu as lu la Bible aujourd'hui? Moi, je ne l'ai pas lu, encourage-moi parce que tu as lu. On pourrait aussi, le dimanche midi, répéter le message du matin pour ne pas l'oublier. Disant, tiens, aujourd'hui, on a écouté le psaume 1, il parlait de l'importance de la vie heureuse où on écoute la parole de Dieu. Et puis, troisième recommandation, prenez des notes quand vous écoutez une prédication. Prenez des notes sur votre téléphone, prenez des notes dans un carnet. Pas pour publier un livre de vos notes, mais pour que vous n'oubliez pas ce que vous avez entendu. Vous pouvez, alors, à la fin de la journée, relire. Ou si tu lis la Bible chez toi tout seul, tu prends un carnet, tu notes un verset qui t'a marqué. Et alors, à la fin de la journée, tu relis le verset. Ça te permet de ne pas l'oublier, mais de le méditer. De méditer une vérité pendant la journée. Ça peut t'aider à méditer jour et nuit comme il nous encourage à le faire. Ce sont toutes des astuces. Il y en a d'autres. On peut essayer de mémoriser des choses. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais l'essentiel, c'est qu'on va être heureux si nous avons ces vérités à notre esprit. Et si nous grandissons en sagesse, la sagesse de Dieu, nous allons aussi grandir dans le bonheur de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, nous te demandons donc de nous aider. Nous avons beaucoup de progrès à faire. Il y a des défis devant nous. Aide-nous d'abord à prendre de bonnes décisions par rapport à nos compagnons, les personnes que nous laissons nous influencer, que ce soit des amis ou autres, Seigneur. Permets que nous puissions prendre de la distance de ceux qui seraient une mauvaise influence sur nous, mais aussi de les influencer, de leur parler honnêtement de notre foi, de nous démarquer d'eux. Seigneur, nous te prions que nous puissions être sel et lumière différents de notre entourage, mais en train de dire oui, je crois en Christ, je crois en Dieu. J'ai une autre vie. Seigneur, aide-nous aussi à prendre ta parole au sérieux, à la connaître, à la lire, à la méditer, à ne pas oublier ce que tu nous as dit, à la mettre en pratique. Et puis, Seigneur, rends-nous conscients de ce qui vient. Tu nous as révélé ce matin qu'il y a un jugement à venir qui est inévitable et irréversible. Te demandons, Seigneur, que nous puissions être prêts pour ce jugement, sachant que nous ne sommes pas meilleurs que les autres, mais que nous pouvons être pleinement pardonnés et assurés de ton pardon, de ton salut, grâce à ton Fils Jésus-Christ. Alors, Seigneur, en ce début d'année, nous voulons te remettre pas seulement ce dimanche et cette semaine, mais toutes les semaines à venir pendant cette année. Que nous puissions marcher avec toi, Seigneur, et que tu nous rendes plus sages, intelligents dans tes voies. Que nous puissions être agréables à toi, notre Père, qui nous aime, et grandir en maturité parce que nous mettons en pratique ta parole. Seigneur, nous voulons que tu nous agrées, que tu prennes plaisir en nous, et que nous trouvions notre bonheur en toi. Et nous te demandons ces choses au nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons chanter un chant qui nous aide justement à priser la parole, à refléter l'importance de la parole de Dieu. Ce chant s'appelle simplement Ta parole. Levons-nous pour chanter.